Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec en Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons ce soir Alex Alquet, coach de la Couronne Basket. Alex, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, merci à vous.
Bienvenue. Donc, on s'était déjà parlé dans le courant de l'année dernière. On avait fait une bonne émission ensemble. Donc là, on va démarrer avec Christian qui va vous poser la première question. Je vous laisse entre les mains expertes de notre spécialiste S-Basket.
Oui, mais bonjour Alex déjà. La première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est malheureusement la saison de l'an dernier avait été arrêtée au mois d'octobre. Tu es arrivé au LCB. On sait forcément que le basket, c'est un sport où on met des systèmes en place, notamment au niveau de l'attaque, au niveau de la défense aussi. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour toi finalement d'arriver dans une nouvelle équipe et de devoir arrêter au bout d'un mois de compétition, grosso modo?
Si, c'est surtout très frustrant parce qu'on partait sur un nouveau projet qui était assez ambitieux. Après quelques saisons galères au club du LCB, on a voulu recréer une bonne dynamique sportive, que ce soit au sein de l'équipe première, mais aussi au sein du club et en partant de la base, donc des jeunes. Et c'est vrai qu'on a été un peu coupé dans notre élan par le Covid. Après, on a eu la chance quand même d'avoir des joueuses assez motivées sur l'équipe première qui ont pu rester sérieuses en travaillant un peu chez elles. Et moi, j'avais continué à garder le lien avec elles en envoyant des programmes. Et on a pu se retrouver en fait à partir de février en extérieur. Donc on a coupé réellement en fait 3 mois. Et après, on a pu reprendre un peu dans des conditions pas très confortables, mais les filles ont fait les efforts d'être présentes et on a pu continuer à retrouver un peu de sensations en extérieur.
Ouais, ça vous a permis justement de garder le lien entre elle et toi finalement.
Ouais, exactement, c'est ça le plus important, parce que même si on pouvait pas progresser sur l'aspect collectif, on pouvait continuer à apprendre à se connaître et faire quand même des choses et anticiper du travail, notamment physique et relationnel, pour la saison qui est en cours.
Oui, ça vous a permis un peu de gagner un peu de temps au final par rapport à la prépa estivale de 2021.
Ouais, exactement. C'est qu'une fois qu'on avait posé le contexte, on ne pouvait pas s'entraîner. C'était soit on abandonnait tout pendant 6 mois, soit on trouvait des solutions pour continuer à créer du lien et à commencer à progresser dans certains domaines. Et c'est ce qui a été le cas est fait sérieusement par les joueuses et le staff, donc c'était quand même pas du temps perdu.
C'est vrai que le LCB version National 3A, c'est un groupe qui se connaît beaucoup, qui joue ensemble depuis plusieurs années. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de cadres qui sont dans l'équipe depuis longtemps. Que ce soit aussi au niveau des dirigeants, Richard, Bruno, c'est vraiment des gens qui sont là depuis longtemps. Comment tu t'es adapté finalement dans tout ça, parce que t'as été un peu finalement le petit nouveau entre guillemets.
Exactement, ouais, moi je suis arrivé l'année dernière, le groupe se connaissait très bien et était assez solidaire. Il avait su rester solidaire dans le marasme des années précédentes, et ça c'était vraiment une force. Et en fait l'adaptation s'est fait assez naturellement, parce que ils ont vu que moi j'étais quelqu'un qui était très très à l'écoute en fait des problèmes qu'elles ont pu avoir et essayer tout de suite de ramener un climat de confiance. Et je pense réellement que j'ai gagné du crédit avec le confinement. Elles ont vu que je les lâchais pas pendant un temps où on aurait pu très bien rien faire. Et ça a été un vrai gain de temps par rapport à cette année. Et l'adaptation avec l'aspect dirigeant, on avait eu déjà un premier contact la saison 2019-2020 et qui n'avait pas été concluant. Donc après, Richard m'avait recontacté, on avait trouvé un accord pour l'année dernière. Donc on se connaît depuis 3 saisons, même si je travaille avec eux que depuis 2.
Ouais. Et puis c'est vrai que tu faisais référence à cette saison 2019-2020, donc c'était la saison avec Florian Philippe sur le banc. C'est vrai que ça a été une saison compliquée d'un point de vue de résultat. C'est vrai que le LCB était même relégué sportivement, et puis avec le Covid, la saison s'était pas terminée, donc il y avait pas eu descente. Donc le club avait été repêché en National 3, ou en tout cas n'avait pas été rétrogradé. Est-ce que du coup d'arriver dans une équipe où les résultats sont un peu compliqués, est-ce que tu t'es posé la question longtemps avant de rejoindre le projet au final?
Non, absolument pas, parce que c'était un nouveau projet. En fait, on repartait sur un cycle, il y a eu un changement aussi de dirigeant, d'équipe dirigeante. Donc ça a été vraiment le club qui a voulu retrouver un peu les
lieux sportants.
Ouais, c'est ça, les gloires passées, j'allais dire, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'était un projet ambitieux et surtout qui mérite d'être structuré, d'être porté avec le cœur, et c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Et le dirigeant fait un gros boulot. Moi, j'ai réussi à redonner de la confiance, parce que c'est des joueuses qui sont au niveau de la National 3, mais c'est des joueuses qui ont perdu. Donc quand ça fait 2 ans que tu fais que perdre et que tu te sens pas trop à apprécier, enfin ça fonctionne pas trop avec le coach, ce qui peut arriver. Voilà, c'est surtout redonner de la confiance et essayer d'avoir du crédit auprès de ces filles-là. Mais moi, je suis plutôt dans l'idée de relever des challenges, et je l'ai vu en tant que beau challenge et une proposition intéressante. Et de toute façon, moi, j'avais rien à perdre à tenter le coup au LCB, donc ça s'est fait assez naturellement, et aujourd'hui, on est assez content de ce qui se passe.
Moi, j'avais vu tous les matchs à domicile de la saison 2019-2020, et c'est vrai que la première victoire s'est fait longtemps attendre. Il me semble qu'elles ont gagné leur premier match au mois de mars, si je me trompe pas. En tout cas, un peu avant la fin de la saison. Il y a des matchs, en fait, où on sentait qu'elles n'étaient pas loin, finalement, qu'elles pouvaient gagner, qu'elles avaient le match pratiquement en main, et ça tournait toujours de l'autre côté. Est-ce que pour toi, finalement, tu disais que les joueuses avaient le niveau? Est-ce que c'était surtout psychologique le souci?
C'est la gestion, en fait, entre le lien, entre la confiance que les joueuses peuvent apporter au coach, et le coach, quelle confiance il apporte aussi aux joueuses. Et dans les matchs serrés, c'est toujours un peu ça qui peut faire la différence. Et au basket, de toute façon, ça va tellement vite que quand tu perds de moins de 10 points, de toute façon, c'est que ça peut tomber quand même des deux côtés. Donc c'est un sport de détail, et dans le détail, l'aspect mental et l'effort supplémentaire est très important. Et quand le groupe et le staff ne fusionnent pas, t'as pas forcément envie de te donner un peu plus pour ta coéquipière ou pour ton coach lorsqu'il te demande de faire des efforts en fin de match, quoi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y avait aussi des mauvais résultats. Il faut que tout le monde aille dans le même sens.
Concrètement, Alex, avant de poursuivre, où est-ce que tu étais entraîneur auparavant?
Moi, j'ai commencé en Normandie. J'étais à Lisieux, en Normandie. Et après, j'ai fait plusieurs saisons là-bas, et je suis arrivé au club de Saujon en Charente-Maritime, à côté de Royan, où je suis arrivé pour une année en National 3. Et je suis arrivé en courte saison, et derrière, j'ai eu un poste de responsable technique au club. Donc je gère tout l'aspect sportif du club de Saujon, et depuis du coup cette année, j'ai un mi-temps à Saujon et un mi-temps à la Couronne, puisqu'ils ont réussi à me salarier cette année pour m'occuper de l'équipe première et pour développer l'aspect sportif du club.
Pas bien, trop compliqué de faire un peu la route, parce que c'est vrai que le LCB avait connu une similitude avec l'arrivée de Jay Diop, qui habitait aussi vers Saujon. Pas trop compliqué finalement de faire la route plusieurs fois par semaine entre la Charente et la Charente-Maritime.
Non, moi c'est quelque chose qui me va bien, en fait, parce que tout quand je rentre chez moi, j'ai vraiment terminé avec le basket, donc je peux utiliser la route pour passer des coups de téléphone, et je passe assez de temps au téléphone pour que ça soit cool de pas le faire chez soi et de le faire sur le trajet. Oui. Donc là-dessus, c'est, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Maintenant, ouais, là, les deux emplois du temps sont pas évidents à gérer, mais c'était le deal aussi cette année par rapport à moi, un projet aussi personnel, et voilà, le LCB m'a offert cette chance de pouvoir être sous contrat avec eux, et espérer être dans la continuité l'année prochaine avec un contrat plus ou moins, enfin plus élevé en nombre d'heures, quoi.
À titre personnel, ça donne aussi l'opportunité de coacher en National 3 féminine, mine de rien, dans la région. Moi, je compte surtout la région Poitou-Charentes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, finalement, en National 3 féminine. Hein. Il y a vous, il y a Bressuire, il y a Choré. Il y avait aussi, il me semble, la réserve de La Rochelle, mais je ne sais plus si c'est le cas maintenant. Donc au final, c'est vrai que dans le paysage picto-charentais, un peu du basket féminin, la Couronne occupe une place de choix, entre guillemets.
Exactement, et puis c'est une place de choix depuis plusieurs années.
Ouais.
Donc c'est un club qui a réussi à pérenniser et y être 3, 4, 5 ans. On va dire que c'est plus facile, mais eux, ils y sont depuis vraiment une vingtaine d'années. Donc ce qui fait qu'il y a de quoi travailler, il y a des habitudes d'entraînement, il y a un public qui a un regard quand même à basket. Et il y a un vrai, moi je trouve qu'il y a un vrai engouement autour de ce club et ils demandent qu'à continuer à se développer et dans la vie d'une structure il y a des saisons avec, des saisons sans, des montées, des descentes, et là il y a eu le Covid qui est venu aussi nous sauver un peu le club. Donc je pense que tout le monde a eu aussi un déclic de dire bon, maintenant il faut quand même qu'on passe à autre chose si on sera pas sauvé par le Covid tous les ans.
Oui,
donc derrière ils ont
une deuxième chance à saisir au final.
Exactement, donc les joueuses l'ont compris aussi, les dirigeants l'ont compris aussi, et du coup moi mon arrivée s'est fait dans ce sens-là aussi. C'était une nouvelle opportunité pour les trois parties de continuer une aventure et de continuer à écrire l'histoire du LCB.
Vu que la saison n'a duré qu'un mois l'an dernier, est-ce qu'ils ont gardé les mêmes poules cette année au niveau de la National 3? Vous avez les mêmes poules que l'an passé?
Non, pas du tout. Alors on a une ou deux équipes qui sont identiques, mais non, on était avec les équipes de Pays de la Loire l'année dernière, et okay. Là on est avec les équipes, toujours avec les équipes du Limousin, et on va jusqu'à Clermont-Ferrand.
Oui, comme c'était il y a deux ans avec Beaumont.
Voilà, donc voilà, nous on joue Beaumont et Montferrand qui sont avec nous. Et après Bressuire, Chauray, le Poinçonnet.
Bon, vous avez évité les déplacements dans le Sud-Ouest alors.
Oui, exactement. On n'a pas la poule du Sud-Ouest. Voilà, on n'est pas dans le Pays de la Loire, mais on est un peu centre et jusqu'à Clermont quoi.
Il y a deux ans, il manquait une intérieure finalement parce que Vanessa Boussenga avait été absente pour raison personnelle puisqu'elle attendait un enfant.
Exactement.
J'imagine que s'appuyer sur une intérieure comme elle qui est une grande taille et puis qui est une grosse pourvoyeur de points, j'imagine que c'est déjà un bel ancrage quand on est coach.
Oui, c'est un poste clé au basket et notamment à ce niveau de compétition. On sait que si on n'a pas de joueuse intérieure dominante, il y a peu de chances de se maintenir. Donc, on a réussi à la faire venir, la faire revenir l'année dernière après sa pause bébé, où elle a eu son deuxième enfant. Et elle a adhéré tout de suite au projet et elle a continué cette année avec nous. Mais c'est sûr qu'on a un renfort de choix avec le retour de Vanessa sur ce secteur de jeu qui est si particulier et tellement nécessaire pour exister dans cette compétition.
Et puis je pense aussi à des filles comme Naïda, comme Ambre, qui sont vraiment des taulières hein, du LCB, qui ont beaucoup d'expérience. J'imagine que ça s'appuie sur des joueuses qui ont tant d'expérience, qui ont fait beaucoup de matchs en National 3, en National 2 même pour certaines. C'est vraiment un avantage au final. C'est un peu l'amalgame entre guillemets de l'expérience et de la jeunesse, votre groupe cette année.
Ouais, c'est un groupe qui est très jeune et qui a pour certaines beaucoup d'expérience malgré leur jeune âge. Et l'autre moitié, c'est des filles qui sont revanchards et qui n'ont pas donné de la chance à ce niveau-là, qui l'ont pas encore connu et qui saisissent ça avec à pleines dents et qui ont la fougue de la découverte du niveau et qui progressent d'entraînement en entraînement. Donc c'est hyper intéressant, mais il nous manque quand même, moi je pense qu'il nous manque quand même une vieille entre guillemets, quand on est une joueuse expérimentée et par l'âge et par la carrière
sur un poste en particulier.
Ouais, moi j'aurais aimé, en fait cette année on a recruté une joueuse, Luna Kozaska là, qui est arrivée de Royan, que moi j'avais une connaissance depuis quelques années, je la suivi, qu'elle joue poste 4. D'accord. Et je voulais chercher une arrière en fait aussi, et j'aurais aimé avoir du renfort parce que réellement on a que Naïda sur le poste de meneuse de jeu, et voilà, d'avoir une joueuse d'expérience qui peut faire office de cadre et tenir le vestiaire et être capable d'apporter ces précieux conseils aux jeunes joueuses, ça aurait été la bonne pioche. Voilà, on n'a pas trouvé cette joueuse là.
Non, et puis aussi faire de la rotation, j'imagine, aussi dans les lignes arrière.
Exactement. Et puis là, on a le cas en ce moment. On est un peu embêté parce qu'on a Marion Basperas qui est blessé depuis un mois. Qui s'est fait une grosse entorse à Cholet. Et elle nous manque énormément, quoi. On a donc d'être T'as un effectif court et dès que t'as une blessée, sur en plus un poste qu'on avait ciblé, bah tout de suite c'est plus compliqué.
Parlons du championnat, du coup vous avez fait la moitié de la saison pour l'instant, 11 premiers matchs, c'est vrai que quand on prend le classement, on va dire que le championnat est morcelé vraiment en trois parties, il y a vraiment les quatre premières qui sont devant, Choré, Montferrand, le match Vendée Sud et Chantonnay, et puis derrière il y a un petit groupe qui est un peu à la traîne comme Tulle, Cholet, Bressuire et peut-être l'ASPT Limoges, vous êtes finalement au milieu de tableau. Et c'est vrai que quand on observe vos résultats, bah finalement, c'est pas très compliqué, c'est binaire. Vous perdez contre les premières et vous gagnez contre les dernières.
Exactement, on a gagné les matchs qu'il fallait pas perdre surtout. Et ça, c'est hyper important en début d'année. On s'est mis des objectifs et pour le moment, on est dans les objectifs prévus. Et c'est déjà une très bonne chose d'y être. Voilà, 5 matchs gagnés à la fin des phases allées au LCB, c'était pas arrivé depuis 3 ans. Donc les dirigeants et les joueuses sont ravis de ça. Voilà, maintenant on a fait une bêtise en perdant contre Limoges dimanche à domicile.
Il manque
des détails. On n'a pas su y être. Après voilà, c'est aussi l'histoire du basket, c'est le sport. Limoges a pas volé du tout son match et nous on va en sortir plus fort et c'est bien ça l'intérêt. On apprend beaucoup plus quand on perd et quand on est frustré que quand on gagne facilement. Donc voilà, mais le championnat, ouais, il y a vraiment des équipes de tête qui sont extrêmement mieux armées que nous. Et derrière, nous il faut qu'on aille accrocher 9 matchs pour espérer se maintenir, en sachant que voilà, il y a 3 équipes qui semblent un peu détachées pour le moment et qui devraient pas trop revenir dans la course au maintien.
Ce match de Limoges, finalement, c'était peut-être le match qui pouvait vous faire basculer un peu plus haut, parce que là, finalement, sur 11 matchs, vous avez un bilan négatif de 5 victoires et 6 défaites. C'est vrai que si vous aviez gagné contre Limoges, ça aurait été l'inverse, 6 victoires, 5 défaites. C'est vraiment peut-être le match charnière un peu de cette fin de saison qui aurait pu vous faire basculer du bon côté.
Ouais, exactement. On est assez déçus de ce résultat, surtout que.
Qu'est-ce qui fait finalement que ce match vous le perdez? C'est quoi le scénario du match?
On fait une très mauvaise entame de match. On sort du premier quart-temps à moins 9. On prend un 9-0 d'entrée. Et à la fin du quart-temps, il y a 5-14 pour Limoges. Nous, on met un seul panier. Donc, on est complètement un peu stressé. On n'arrive pas à se libérer. On met pas de lancer franc, pas de tir facile. Et d'ailleurs, on fait un très gros deuxième carton. On est à plus 7 à la mi-temps. On leur inflige un 22-6. Donc là, on arrive à retrouver notre basket, tout simplement.
Ah oui, donc vous leur mettez 16 points au deuxième carton.
Exactement. Et après, en deuxième mi-temps, on s'est fait. On a été bien moins intense qu'elle, en fait. C'est une équipe qui était très combative au rebond offensif, qui plongeait sur les ballons. Tous les ballons qui appartenaient à personne, ils sont tombés dans leurs mains. Et nous, on n'a pas été dans le combat et dans suffisamment d'efforts pour pouvoir espérer prendre ce match-là. Donc nous, c'est clairement une première erreur au sein du championnat. On souhaitait quand même avoir cette sixième victoire avant la trêve qui nous aurait pu permettre de respirer encore plus, et surtout que c'est une équipe qui a une équipe première en National 1, et que d'aller jouer là-bas le dernier match du championnat, si elles doivent se maintenir, on sait ce qui se passera. Voilà.
Ouais, puis c'est vrai qu'en plus la Couronne et Limoges, c'est des équipes qui se connaissent très bien, elles tombent pratiquement chaque année ensemble dans la même poule, et c'est un coup c'est la Couronne, un coup c'est Limoges.
Oui, exactement, c'est une équipe qui fait office de centre de formation et qui sont un peu dans le même registre que nous, assez jeunes et qui recherchent de l'expérience dans cette compétition. Donc on sait que plus les matchs vont passer, plus elles seront expérimentées et fortes. Et elles ont perdu 5 fois, mais elles perdent pas beaucoup parce qu'elles mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'était un match serré, plaisant à regarder d'un point de vue extérieur, mais très très frustrant pour nous. Mais bon, à un point que ça tombe d'un côté ou de l'autre, c'est le détail qui fait la différence, et c'est pas tombé de l'autre côté. Mais si on s'en sert comme expérience, ça sera ça sera bénéfique pour la deuxième partie du championnat.
Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'un point d'écart, c'est très peu. Comment ça se passe d'ailleurs à la fin du match? Est-ce que c'est elles finalement qui mettent le panier décisif ou c'est vous qui ratez la dernière occasion? Enfin, comment ça s'est passé? La dernière possession.
On gère assez mal la fin de match parce qu'on a plus 3 à 2 minutes de la fin. Et en fait, on n'arrive plus du tout. On perd le collectif offensif, quoi. On joue plus ensemble. Et Limoges, elles mettent un panier dans le jeu. Et derrière, nous, on fait faute, en fait. Là. Donc, on marque pas, on fait faute. Et elles ont 2 lancers francs. Donc, on est à plus 1 et la joueuse fait 2 sur 2 lancers francs. Et il doit rester 25-30 secondes. Donc après, moi, j'ai un temps mort, je fais avancer la balle de l'autre côté et sur ce qui est demandé, on a un tir ouvert qu'on réussit pas et on prend le rebond et on retourne au cercle et voilà,
c'est vraiment pas choisi grand chose alors.
Non, voilà, il y a un tir, il y a un contact, voilà, les arbitres sifflent pas. Moi, je suis pas capable de dire s'il y a faute ou il y a pas faute. Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas scoré et que du coup, elles l'ont emporté de cette manière-là, mais on avait la balle dans les mains dernière action. Ouais.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Alex Saquet, interviewé par Christian.
On répète votre bilan sur les 11 premiers matchs, 5 victoires, 6 défaites. Globalement, si tu devais ressortir peut-être un match référence dans le bon côté, puis un match où vous n'avez pas forcément trop existé, à quel match tu ferais référence?
Nous, on a fait un très bon match pour moi à la SPTT Limoges. On gagne de 21 points en étant très intense pendant 40 minutes. On a imposé notre rythme offensif et défensif. On était vraiment en osmose tout ensemble et dans les efforts et gagner à la SPTT Limoges de 21, c'est pas évident. Donc on a sorti un très gros match là-bas et j'ai un deuxième match en tête, c'est le match à Cholet où on défend extrêmement bien et on encaisse que 48 points, je crois, à l'extérieur. C'était notre meilleure performance défensive de l'année. Et ça, c'est à noter parce qu'on a, voilà, on a un peu des lacunes défensives par moment liées toujours à cette idée de combattre et de faire les efforts supplémentaires où on est un peu laxiste par moment. Et sur ces deux matchs-là, on a su être très intense et très bon des deux côtés du terrain et on a eu 2 victoires importantes à l'extérieur.
Oui, 48 et contre des concurrents. Le résultat,
voilà, contre des concurrents directs au maintien. Donc c'est plutôt intéressant et l'écart nous protège un peu par rapport au match retour.
Tu parles du match retour, c'est des équipes que vous allez recevoir au match retour, donc c'est il y aura l'occasion de remettre encore plus l'écart avec elles.
Exactement, nous, moi j'ai...
Parce que rappelle-moi les modalités pour le maintien, c'est 3 ou 4 descentes déjà?
Non, alors en 3, il y a 4 descentes, en sachant que le 9e est...
Ouais, ça peut être potentiellement
bêché, quoi.
Ouais,
ça peut voilà, être... c'est ça, mais bon, nous, on vise pas là-dessus du tout, donc on est en train de chercher 9 victoires, voilà, et on sait que 9 victoires, il faut rebattre les 4 dernières équipes derrière nous.
Oui.
Donc on a 2 fois chez nous et 2 fois à l'extérieur. Ce sera pas des matchs faciles parce qu'elles vont jouer aussi leur peau sur ces rencontres, mais nous être au rendez-vous et les cartes sont dans nos mains malgré le petit faux pas de ce week-end. On est dans les objectifs.
Oui, c'est vrai que voilà, finalement vous avez qu'une victoire d'avance sur le 9e. C'est vrai que si vous l'aviez emporté contre la réserve de Limoges, ça aurait fait 2 victoires, ça vous aurait mis un petit matelas supplémentaire.
Ouais, exactement. Donc c'est là la frustration d'autant plus grande que voilà, Limoges a gagné à Tulle lors de cette dernière journée. Et mais c'est le sport, hein. C'est à nous de mettre le destin dans nos mains et de faire les efforts nécessaires pour ne pas avoir à regarder les résultats des autres. Si on gagne, on reste devant et ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. J'espère qu'on arrivera à viser cette 7e ou 8e place.
Quand on regarde les points encaissés, les points marqués, c'est pile poil la sixième place pour les points marqués et la 6e place pour les points encaissés. Donc c'est assez homogène quand même.
Oui, on est une équipe qui va être qui, moi je pense qu'on finira au mieux 6e, au pire 8e, on sera 6, 7 ou 8. Je pense que c'est un résultat qui sera déjà très bien pour cette saison. Et on est surtout loin des 5 premiers. On est loin en termes d'investissement, de profondeur de banc, d'expérience. Donc voilà, il faut pas non plus se voiler la face. Il y a 5 matchs qui vont être compliqués. et on va en avoir 5 autres qui vont être, enfin 6 autres qui vont être à notre portée. Et dans ces 6 là, il faut en prendre 4. Donc si on arrive à en prendre 4, ben on aura fait le travail, on sera de nouveau en National 3 l'année prochaine. Et puis si on en prend moins, ben il y a toujours le jeu du championnat. On ne sait pas ce que les autres équipes vont faire, donc il y a toujours une part de chance dans ça, mais on est plutôt en bonne posture et assez confiant pour la suite. Mais là, la pause va nous faire du bien et on va récupérer notre blessé au mois de janvier, donc c'est plutôt bien.
Oui, puis c'est vrai que dans le sport, on dit toujours qu'il faut pas oublier d'où on vient, et c'est vrai que le LCB a été relégué du coup en 2019-2020 sportivement, et puis surtout ils ont été repêchés en terminant 9e. D'ailleurs, vous avez battu la malédiction, parce qu'il me semble que c'était une défaite à Limoges SPTT qui les avait mis
neuvième.
Donc au final, quand on part de ce postulat repêché, puis après repêché par le Covid entre guillemets, votre bilan il est plutôt correct.
Exactement. Donc ça fait 3 ans qu'on n'aurait pas dû être en National 3 et qu'on y est. Donc la chance, à un moment donné, ça va s'en aller. Donc c'est à nous de mettre les ingrédients pour se maintenir. Et c'est pour ça qu'on est très content, ouais, d'avoir 5 victoires. C'est des jeux qui n'ont pas gagné depuis longtemps. Donc il faut aussi apprendre à gagner.
Oui.
Et le match de dimanche où on est à la mi-temps bien et que ça revient petit à petit, bah, nous, on est un peu pris de panique par moment. On sait pas trop quoi faire, et comme on a un groupe qui est très jeune et qui a perdu confiance pendant ces dernières années, bah les vieux démons reviennent et du coup on n'est pas on ça tombe pas de pour nous, mais c'est une bonne expérience à avoir. Et ouais, 5 matchs à Noël, je pense que tout le monde aurait signé avant le début de saison.
Un mot sur Chory qui est premier, est-ce que c'est toujours Christophe Poncharo qui est coach?
Oui. Ouais, c'est toujours Christophe qui est coach, ouais.
Bon, c'est logique qu'il soit premier, j'imagine. C'est quand même un club qui a des ambitions depuis quelques années. Bon, eux aussi ont été freinés par le Covid, mais négativement, du coup. La première place, finalement, 11 victoires, une défaite, tu trouves, enfin, c'est une première place qui est logique?
Oui, ils ont dominé la première partie du championnat. C'est une équipe qui est très athlétique et qui est très fournie sur les postes 3, 4, 5. Ils ont doublé tous les postes et il y a une densité physique qui est monstrueuse par rapport au niveau. Et surtout, la preuve de ça, c'est qu'ils ont battu en Coupe de France l'équipe qui est première de National 2, donc c'est Bordeaux, chez elles. Mais elles ont gagné le match, donc c'est aussi Bordeaux qui est invaincu en National 2. Donc c'est preuve de la profondeur de l'effectif et de la qualité des joueuses qui est là-bas, du travail fourni depuis plusieurs années. Et voilà, comme ça a été dit, le club de Choré souhaite évoluer au niveau supérieur. Ils font tout d'un point de vue structure et organisation interne à l'équipe première pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, il faut monter et il va avoir un match décisif contre Montferrand chez lui la première journée de la phase retour. Donc, je pense que s'il prend ce match-là, ça sera terminé. Il montrera.
Oui, il y a plus de play-off pour les premières.
Il y a plus de play-off.
D'accord, exactement. Okay. Parce qu'avant, quand on terminait premier, il y avait des play-offs.
Ouais, exactement. Et alors après, tu joues le titre de champion de France de National 3, mais tu montes directement.
Ok, ça c'est cool.
Le premier monte. Avant, c'était les deux premiers qui faisaient des play-offs.
Ouais. Et là, qui est inversé du coup avec les deux premières de la poule C, enfin quand vous étiez en D.
Ouais.
Et du coup, en fait, on gardait les scores, deux résultats, ouais, contre le deuxième si vous étiez premier.
Ouais, exactement. Et là, non, c'est le premier monte. Et par contre, ils ont gardé le même nombre de descentes, parce que chez les filles, il y a 8 poules de National 3, alors que chez les garçons, il y en a 12. Donc les garçons, eux, c'est 3 descentes.
D'accord. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de poules de pré-national ou de R1.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de poules de pré-national et il y a des bonnes équipes qui montent. Hein. Moi, on a été longtemps en pré-national avec Sojon. Le niveau évolue dans le bon sens. Donc c'est plutôt positif pour le basket féminin et surtout dans le secteur, et c'est très bien pour un club comme Choré. S'il monte en N2, ça amène de la visibilité et ça améliore le niveau du basket dans notre ex-Poitou Charentes. Donc il faut se réjouir de ça aussi.
Et puis c'est vrai que par rapport à Choré, pour terminer sur elle, bah vous allez les recevoir le 15 janvier. Comment on prend ce match? Est-ce qu'on prend ce match comme un match de gala, ou il y a vraiment quand même l'ambition de donner la meilleure image de nous et puis d'essayer de les embêter?
Ouais, on sur un match à à domicile contre les grosses équipes. On va recevoir les gros de toute façon, parce qu'on va recevoir Montferrand aussi. Il n'y a pas de... On va dire, il faut les respecter, mais il faut jouer le match, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'avoir joué avant. Il faut l'avoir joué sur le terrain et se dire très bien, oui, ils sont premiers. Maintenant, ils se sont fait attraper une fois. Pourquoi ils ne se feraient pas attraper une deuxième fois? Il n'y a pas de... On ne commence pas le match en leur donnant 30 points et après, on commence à jouer, quoi. Il faut... Nous, on n'est pas assez sûr de se maintenir pour abandonner les matchs, que ce soit contre le premier ou contre le dernier. Donc, s'ils peuvent venir faire un faux pas chez nous, on s'en privera pas de prendre le match. Maintenant, il faut rester réaliste sur la perspective entre les deux équipes,
sur les écarts entre les deux équipes.
Exactement. Et qu'on sait très bien que sur un championnat, on sera jamais devant elle.
Bien sûr.
Mais sur un match sec, à domicile, on est loin d'être favori, mais on
ouais, après, donnera pas le match. Après, il suffit qu'elle n'ait pas d'adresse une soirée et que vous tout rentre, et puis.
Exactement. Il y a des données qui sont non maîtrisables et qu'on verra bien lors de ce match-là, mais on a une entame de deuxième partie de saison qui va être compliquée. On a les trois premiers matchs qui vont être assez assez rudes pour nous, donc à nous de faire les efforts nécessaires pour bien revenir, et après on va avoir une série de cinq matchs où là il faudra en chercher le maximum.
Oui, puis tu faisais référence au fait qu'il vous reste quatre victoires grosso modo pour obtenir le maintien. Bon, j'imagine que les quatre victoires tu comptes avant tout sur les six dernières, mais bon, s'il y a moyen d'aller faire un coup à domicile contre un top 5, faut pas se priver non plus.
Exactement, c'est qui les saisons où tu es maintenu, c'est quand tu fais des coups. Et aujourd'hui, voilà, là, moi, c'est le discours que j'ai eu au fils, c'est de dire
que finalement, si vous battez Beaumont, par exemple, on peut pratiquement considérer que ça comme une victoire bonus.
Et ouais, exactement. Et ça, c'est un des matchs qui va être important et qu'il faudra prendre très au sérieux pour effacer entre guillemets la défaite de la défaite de Limoges à domicile, parce qu'il faut moi j'ai toujours refusé, il faut protéger la maison et ça peu importe l'adversaire et pour le moment lors de cette première partie de saison, donc on a eu 6 matchs chez nous, on a perdu 3 fois. Et donc c'est un match sur deux.
Pour deux matchs à l'extérieur, pour deux victoires à l'extérieur, il me semble.
Exactement. Ouais. Donc à l'extérieur, le bilan il est plus que bien, 2 sur 5, on gagne 40% des matchs, c'est très bien. Mais à domicile, voilà, il aurait fallu faire 4 sur 6 pour que ce soit correct. On n'y est pas maintenant.
Ouais, c'est on y revient, mais c'est ce match de Limoges finalement qui fait un peu le contrebalancier du mauvais côté.
Exactement. Exactement. Bah après c'est voilà, maintenant c'est passé, donc on est focus sur la suite et la saison est encore loin d'être finie et on est dans une posture qui est plutôt positive, donc il y a pas lieu de s'inquiéter, mais il faut continuer à travailler et espérer faire un coup contre une équipe du top 6 pour pouvoir avoir un match un peu plus facile.
En parlant de match important, on fait forcément référence à Beaumont parce que c'est peut-être le pensionnaire du top 5 qui est le plus prenable, mais il y a aussi ce match dès la reprise là contre le Poinçonnet, une équipe que vous avez battu au match aller sur le premier match. Donc j'imagine que c'était important de gagner ce premier match vraiment pour vous lancer et puis pour que l'équipe soit vraiment dans une dynamique positive. Surtout derrière, il y avait en plus Choré et un autre gros, donc c'était important de l'emporter. Là, le Poinçonnet chez elle, ça va être aussi important, j'imagine, parce que vous êtes à peu près milieu de tableau, donc toutes les deux.
Exactement. Après, le Poinçonnet, il faut savoir que c'est l'équipe réserve et qu'à domicile, ils font jouer des joueuses de N1 pour gagner les matchs.
D'accord. Okay.
Donc c'est un match qui va être très compliqué pour.
Donc c'est une équipe vraiment différente de que tu la joues chez elle ou chez toi.
Exactement. Ah ouais. Exactement. Ils mettent toujours deux joueuses de N1 chez elle pour gagner les matchs. Et après le reste c'est que des très jeunes joueuses. En fait c'est que les cadettes qui jouent donc des U18 qui jouent en senior et qui sans ces renforts de l'équipe première auraient beaucoup de mal pour se maintenir. Et malgré qu'il y a un effectif de qualité, hein, on les a joués en début de saison et ils ont notamment une joueuse qui met plus de 20 points par match à 16 ans. Donc c'est quand même notable mais c'est pas la même équipe qu'à domicile. Après nous on avait joué chez nous sans Vanessa. Oui. Donc on va voir aussi ce que ça donne avec Vanessa là-bas. On va y aller sans complexe et avec l'objectif de au moins protéger le goal average et si on peut faire un coup d'entrée, parce que je considère toujours que les premiers matchs de reprise et les derniers matchs sont un peu particuliers. Donc on verra, ce sera l'équipe qui aura pris le plus soin de soi d'un point de vue physique pendant les fêtes qui l'emportera à mon avis. La capacité à répéter les efforts va être importante.
Ouais, parce que vous gagnez de 8 ouais. Mathieu Lech.
Exactement.
66-58. D'ailleurs, il va se passer quoi là pendant ce, parce que au final il y a un mois de trêve grosso modo entre le dernier match qui s'est joué le 11 décembre et le premier qui va jouer le 8 janvier, il y a pratiquement un mois. Qu'est-ce qui va se passer là pendant ce mois pour les joueurs?
Bah là en fait on a coupé cette semaine, on se revoit jeudi, enfin, on a coupé là lundi mardi, on se revoit jeudi et derrière on fait un mini stage le 29-30 décembre. Où on fera 3 ou 4 séances sur ces 2 jours-là. Et après, il y a reprise le lundi de la rentrée. Donc, les filles vont avoir un programme à faire de renforcement chez elles. Et elles vont avoir réellement 10 jours complets de pause qui est nécessaire. Mais plus, après, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on reprenne directement le rythme à partir du 29 oui. décembre.
Mmh. Oui, parce que mine de rien, en un mois, on perd vite le rythme.
Ouais, exactement. C'est pour ça que le choix cette année a été aussi de reprendre plus tôt. On a recommencé le 9 août, qui pour nous était une semaine plus tôt que l'habituel. Donc ça rajoute quand même 6-7 séances. Donc c'est des séances qui ont été ultra ultra importantes pour pas avoir de blessures musculaires et être en capacité d'entamer le championnat de la meilleure manière possible, parce qu'on savait qu'on recevait le point sonné et qu'il fallait surtout pas perdre à domicile contre cette équipe-là au premier match de la saison. Donc on s'est donné les moyens d'atteindre tout de suite cette premier objectif.
En termes de basket, il y a un paramètre qu'on maîtrise pas forcément quand on est coach, c'est le shoot, enfin la réussite au tir. C'est vrai que les coachs mettent des systèmes offensifs en place pour essayer de mettre les joueuses dans les meilleures conditions, mais au final c'est l'arceau qui décide un peu si ça rentre ou pas. Comment tu vis un peu finalement cette impuissance finalement de se dire que bah le shoot, on peut finalement avoir les mêmes meilleurs systèmes au monde, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer.
Ouais, exactement.
Mais à l'inverse, sur un match, on peut tout rentrer, alors que le match d'avant, on rentrait rien.
Ouais, nous, ça a été le cas le match de Brest-sur, où on a fait 10 sur 15 à 3 points.
Ah oui.
Donc hyper à droite chez nous, donc c'est le plus gros match offensif. Dans ce domaine-là, mais oui, c'est assez frustrant. Après, c'est la partie de la joueuse, quoi. Nous, le travail d'entraîneur, c'est de mettre les joueuses dans les meilleures conditions possibles. Derrière, si elle a un tir qui est très ouvert et qu'elle marque, ben tant mieux. Mais si elle rate, il faut pas trop en vouloir, parce qu'on sait que voilà, au basket, on va rater plus qu'on va marquer. Donc les meilleurs joueurs du monde ratent plus qu'ils marquent. Donc nous, à notre niveau, vous imaginez bien qu'on va rater bien plus que l'on va marquer. Mais ce qui est important, c'est de vraiment mettre les joueuses dans des conditions préférentielles pour elles, et ça va augmenter du coup le pourcentage d'adresse.
Je voulais te demander, Alex, est-ce que tu as des relais sur le terrain dans l'équipe? Est-ce que tu as une ou deux taulières sur lesquelles tu peux compter?
Alors ouais, j'ai un leader offensif, donc enfin j'ai même deux leaders offensifs qui sont vraiment Naïda et Vanessa, donc c'est mon axe meneuse de jeu intérieur qui est très important pour l'équipe d'un point de vue offensif. Et après j'ai Marine Moncel qui elle est vraiment mon leader défensif, qui donne vraiment son corps à la séance, très intense, très précise dans son placement défensif, et elle donne le ton auprès de ses coéquipières. Donc c'est plutôt mes relais sur le terrain. Et après j'ai un troisième vice-capitaine, parce qu'on fonctionne à trois vice-capitaines, avec Ambre qui elle gère l'aspect hors terrain et la vie du groupe, qui est une part essentielle à la réussite de l'équipe, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que Ambre, on l'avait reçu d'ailleurs, il me semble, l'an dernier, il y a 2 ans.
Oui.
On avait fait un trio avec Richard Pelletier, Ambre Javelot et Alex Saki. Il me semble, c'était un peu notre 5 majeur à nous. On complétait avec Didier. C'est vrai que Ambre, c'est une fille importante au sein du club, parce qu'elle, déjà, elle a commencé en National 2 il y a très jeune. Elle est encore très jeune, bien sûr, mais elle est au club depuis très, très longtemps.
Exactement, ouais, c'est la fille qui a le plus d'expérience club de cette équipe-là. C'est une fille qui a connu différents niveaux, qui a une forte connaissance de tous les membres du LCB, et qui pour nous un rôle important au sein de l'effectif cette saison.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Alex Saquet. Christian, c'est à toi.
Oui, mais on va parler un peu de l'équipe réserve aussi. On a fait une large page National 3. L'équipe réserve, quel niveau, et est-ce qu'elles sont satisfaites de leur début de saison?
Alors, l'équipe réserve, elle joue en Régional 2. Et faut savoir que c'est un effectif qui est très jeune. Le club a eu un label élite décerné par la fédération par rapport à leur bonne performance dans la formation de la jeune joueuse. Et moi, une de mes missions, c'est de développer en fait ce label élite là. Et du coup, l'équipe 2 est un maillon essentiel de ce projet où nous on souhaite en faire une équipe espoir, c'est-à-dire une équipe où il y a principalement des joueuses de moins de 21 ans.
Oui.
Donc ce sont des joueuses qui n'ont pas ou peu d'expérience au niveau senior et qui n'ont pas vécu les deux dernières années. Donc on sait qu'à ces âges-là aussi c'est important d'avoir des apprentissages. Donc elles ont eu un début de saison assez compliqué, mais elles sont tombées contre les équipes qui étaient plutôt au tableau. Donc il n'y avait pas d'affolement à avoir. Et là depuis elles ont gagné, elles sont à 3 victoires il me semble contre des concurrents directs. Donc c'est une équipe qui va vivre autour de la 6e-7e place et qui va continuer à évoluer et à progresser, parce que moi ce qui nous intéresse en fait, c'est pas forcément si elle gagne ou si elle perd, il faut qu'elle soit
justement ma question d'après, ouais, c'est finalement est-ce qu'on se focalise sur le résultat ou finalement sur la progression de la joueuse au fil de la saison qui passe des paliers.
C'est plutôt ça, parce que dans le projet du Pôle Élite, il y a un gros projet de travail individualisé en fait avec les joueuses. Moi je m'occupe du cas par cas en fait, et c'est très important qu'elles aient des axes de progression, et si elles travaillent individuellement et qu'elles progressent, voilà, le collectif sera plus fort de toute façon. Mais ce sont des filles qui ont besoin d'expérience dans un monde de seniors. Il faut savoir que là, sur leur match de dimanche, sur les 9 joueuses présentes, il y avait peut-être 3 joueuses seniors, 4 joueuses seniors.
Ah oui. Le reste, et puis on connaît vraiment la différence entre jouer en senior et jouer.
Exactement. Le reste, il y a 3 cadettes et il doit y avoir des joueuses qui ont jamais joué en 2 joueuses qui sont première année senior. Donc c'est un groupe qui est très jeune et qui a plein d'avenir et qu'il faut laisser le temps de grandir.
Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des entraînements organisés entre la, enfin, est-ce que la National 3 s'entraîne avec la Régionale 2 parfois? Parce que j'imagine que c'est aussi important pour les joueuses de Régional 2 finalement de côtoyer cet effectif de National 3. J'imagine que elles assistent au match quand elles peuvent. Enfin, c'est aussi important, oui, de mettre des passerelles entre les deux équipes.
Exactement. Et il y a des passerelles dès les U18 en fait avec l'équipe première. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions en équipe première. Donc pour ça, il faut intégrer des jeunes joueuses qui ont envie de courir et d'augmenter leurs apprentissages. Et dans ce cadre-là, les filles qui font partie donc de ce pôle élite là ont des emplois du temps sportifs adaptés, et certaines d'entre elles s'entraînent, ouais, 2 fois avec nous par semaine sur les 3 séances qu'on a en National 3. Donc elles font part complètement à la vie de groupe de l'équipe première sur les entraînements, et il y a 3 d'entre elles qui ont déjà participé à un match de l'équipe première.
Ah oui, c'est intéressant ça. Du coup, j'allais te dire que potentiellement vous allez pouvoir récolter des fruits d'ici peut-être 1 ou 2 saisons, mais s'il y a déjà des joueuses qui ont joué avec vous, c'est positif.
Exactement,
même de les emmener sur un avant-match de National 3 ou sur un déplacement, enfin, même, ouais, si leur temps de jeu est finalement assez réduit, ça reste quand même formateur d'être dans le groupe au final.
Exactement, on avait ciblé 3 joueuses qui pouvaient éventuellement participer à cette aventure-là. Nous, on a eu le renfort d'une jeune joueuse intérieure là, pour pallier les absences de Vanessa sur les 2 premiers matchs de la saison. Et derrière ça, on a pris une joueuse qui revient des ligaments croisés il y a un an et demi maintenant, et qui progresse très fortement, et qui a mis ses premiers points en équipe première dimanche contre Limoges là. Donc c'est une super nouvelle, parce qu'on sait que les joueuses peuvent jouer à un certain niveau à partir du moment où elles arrivent à marquer des paniers. Donc quand elles marquent des paniers, c'est que elles peuvent continuer à jouer et à s'exprimer dans cette catégorie là et pour elles, c'est une joueuse qui est vraiment leader en équipe 2, qui est encore cadette et qui est leader en équipe 2. Et qui pointe le bout de son nez en équipe première. Donc c'est très important pour le club d'avoir des jeunes joueuses qui intègrent l'équipe 1 et qui ne sont pas juste là pour faire le nombre sur la feuille, mais qui ont un rôle, même si c'est peu de temps de jeu. Mais la joueuse qui joue 5 minutes, pour moi, est aussi importante que celle qui joue 35, parce que si lors de ces 5 minutes là elle est incompétente et qu'elle ne sert à rien, on est en danger. Donc voilà, c'est plutôt un projet qui a accueilli très bien des U18 jusqu'aux seniors de l'équipe première, qui sont très contents d'avoir des jeunes à l'entraînement et de pouvoir être 10 ou 12 à chaque séance.
Oui, puis c'est aussi l'ADN du LCB, de la Couronne Basket. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des petits jeunes qui poussaient, comme Alice Tardieu, comme Stélia Fontaine, Yann Meki, plus récemment peut-être Marine Soumagne. C'est vraiment important aussi. Finalement, le club, bien sûr, il y a quelques recrues qui viennent de l'extérieur, mais c'est surtout des petites pousses internes qui poussent et qui finalement, au fil des saisons, prennent de leur responsabilité et prennent leur place en équipe première.
Exactement, là, il y a, dans les prénoms que vous avez cités, donc il y a Alistair 2 qui joue à Limoges ABC, donc qui on a affronté ce week-end.
Elle était vraiment très très forte quand elle joue en National 3 à la Couronne.
Ouais, c'est une bonne joueuse, très forte dans l'énergie, une belle adresse. Là, elle a une grosse blessure en début de saison, donc elle revient petit à petit, mais c'est une chose qu'on aurait pu avoir dans notre effectif et qu'on aurait accueilli avec plaisir.
Là, elle a joué contre vous d'ailleurs sur le dernier match.
Elle a joué contre nous. D'accord. Elle a joué contre nous. Et derrière, nous on a Marine Soumagne, ouais, qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur au sein de l'équipe et qui pallie avec brio l'absence de Marion Basperas, là, donc qui débute les matchs depuis trois rencontres et qui a un temps de jeu qui a doublé et qui est plutôt intéressant en termes d'efficacité. Donc c'est très bien. Tout le monde est content de ce qui se passe et d'avoir des portes ouvertes. Ça permet aussi aux jeunes d'avoir une grosse source de motivation lors de leur entraînement, parce qu'elles savent que si elles travaillent bien DU15, DU18, la porte de l'équipe première va être ouverte. Et moi, c'est de toute façon une de mes volontés de pouvoir entraîner toutes les joueuses qui sont très motivées.
Dans ce réservoir, Alex, est-ce que tu as des grands gabarits ou pas?
Non, on n'a pas de grands gabarits. Alors après, on a des joueuses qui sont la plus grande qu'on doit avoir, c'est une joueuse qui est première année cadette, donc en seconde, et qui doit faire 1m77, 1m18, un petit 1m80.
D'accord. Mais c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal, mais il y a pas de. C'est une fille qui grandira pas forcément plus, quoi, mais c'est ça pousse pas trop les postes 5 très très grandes, ou sinon elles sont dans des structures déjà qui vont leur permettre de se développer, type Pôle Espoir ou centre de formation.
Moi, je prendrai quelques exemples de postes 5 qui sont pas très grandes. Marine Moncel, par exemple, jouait 5 quand Vanessa était pas là, elle est pas si grande que ça au final. Et puis même, alors moi, j'avoue surtout regarder la NBA. Alors moi, je suis fan des Washington Wizards, et quand on voit que le pivot, c'est Daniel Gafford qui est pas très grand, et puis surtout le backup, c'est Montrezl Harrell qui est encore plus petit, ouais, et qui a la même taille que la Melo Ball qui est meneur de jeu. Au final, bien sûr, la taille est importante, mais c'est aussi une question c'est là-dessus que je reconnaissais Marine, c'est une question de volonté de vouloir arracher le rebond défensif et de prendre surtout le rebond défensif.
Exactement, là, parler de Montrezl Harrell en Energizer en sortie de banc à Washington, et ben nous on a Marine Moncel en starter au LCB, donc
c'est une belle comparaison, je trouve.
Exactement, non, c'est une joueuse qui a vraiment un gros impact dans la densité défensive, et elle met vraiment son cœur à l'ouvrage, et c'est un gros leader pour nous, et c'est une fille qui progresse vraiment bien en attaque aussi. Donc là, elle commence à mettre des tirs même à 3 points en match, elle commence à s'écarter, et on l'a fait jouer plus dans un profil de poste 4 là maintenant que poste 5, parce que son corps a pas mal changé, elle est vraiment devenue très fit. Et du coup, elle peut plus trop aller brasser avec les grandes intérieures, ça devient un peu trop dangereux. Mais par contre, on a fait évoluer son style de jeu avec ses nouvelles qualités, et c'est une fille qui progresse de match en match.
Quels sont les axes fondamentaux de progression de ton groupe, Alex?
En fait, il y a un gros travail individuel qu'on fait le lundi. Parce que c'est, comme je disais, c'est des jeunes joueuses, donc elles ont besoin encore de répéter les gammes et d'augmenter leur on va dire, d'améliorer les cartes qu'elles peuvent utiliser lors des matchs, les cartes techniques, que ce soit sur les postes intérieurs avec des mouvements près du cercle, du jeu sans ballon, avec reconnaître les situations et les lire, et derrière les arrières, garder le dribble sous pression défensive, etc. C'est un peu thématisé par rapport au poste de jeu. On fait un travail vidéo avec certaines joueuses qui est intéressant d'avoir comme retour, de dire ok, j'ai vu mon match, et mes axes de travail sur les prochaines semaines sont ça. Donc elles s'y attellent, et après elles ont des programmes un peu individualisés. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, technique, et collectivement on est toujours en train de progresser, et même si offensivement on arrive à être de mieux en mieux, comprendre de plus en plus de plus en plus dans notre fond de jeu, mais ça c'est lié au temps et à la répétition des actions et à l'investissement qu'elles y mettent, hein. Le fait d'avoir maintenant réellement un an entier de fond de jeu font qu'elles commencent à avoir des automatismes entre elles, et on est vraiment de plus en plus performants. Et puis dans un second temps, l'aspect défensif, voilà, ça c'est beaucoup de communication, beaucoup de connexion, beaucoup d'envie. Et là-dessus, on a encore un gros passage de travail à faire, mais on s'y attelle et les filles comprennent de plus en plus la nécessité de s'y mettre.
Oui, puis tu parlais que tout à l'heure les joueuses revoyaient peut-être leur match. Est-ce que tu bosses avec la vidéo?
Ouais.
Filmé au LCB.
Exactement. Je filme moi tous les matchs. C'est vraiment ça me tient vraiment à cœur d'avoir ce support-là. Les filles ont des statistiques individualisées derrière aussi pour avoir pour connaître leur performance et savoir vraiment les axes de travail. L'objectif est de pouvoir améliorer vraiment la joueuse en tant qu'individu. Et je me répète ce que je dis sur les jeunes, mais ça marche aussi sur les seniors, c'est qu'à partir du moment où la joueuse individuellement progresse et comprend plus de choses, et ben derrière dans le collectif ça se ressent, mais c'est deux travails qui sont hyper hyper différents, mais tellement tellement important de rallier entre le travail individuel et le travail collectif. Donc il faut trouver le juste équilibre et intéresser les filles dans ce qui va être proposé en attaque et en défense.
Ouais, puis c'est vrai que la vidéo c'est quand même dans l'air du temps. On avait reçu d'ailleurs la semaine dernière Michael Ruiz du côté de Saint-Alex Football qui bosse aussi avec la vidéo. Bah lui mettait en place notamment des, alors on va traduire ça en langage NBA, il mettait en place des shooting charts pour les attaquants. Ouais. Déjà quel emplacement du but, enfin d'où il tirait et surtout d'où ils avaient la plus grande efficacité. Est-ce que les statistiques que les joueuses ont, est-ce que c'est poussé jusque là par exemple?
Alors nous, on se concentre vraiment sur nous là sur la première partie de saison. Il y a deux temps de travail en fait. C'est la première partie de saison où moi je suis, les filles ont des stats individuelles sur ce que nous on fait en tant qu'équipe.
D'accord.
Et derrière sur la deuxième partie de saison, donc comme j'ai filmé les matchs aller, plus on récupère on arrive toujours à récupérer des vidéos des autres matchs des adversaires. Là on va avoir un focus un peu plus sur quels sont les points forts, les points faibles de l'adversaire. Et essayer d'appuyer là-dessus, mais de toute façon il faut déjà maîtriser ce que nous on va faire avant de s'occuper trop de l'équipe adverse. Mais le travail de scouting est hyper important pour que les filles, même sans avoir d'image, aient des connaissances des points forts et des points faibles de l'adversaire. Et ça j'arrive à leur donner en première partie de saison. Et donc c'est plus les matchs passent, en fait, plus c'est précis et plus elles ont d'informations, elles ont à livrer en fait avant chaque match. Qu'elles ont.
Après, c'est logique. Moi, je trouve ça hyper logique. Au final, on se concentre avant tout sur nous-mêmes, parce qu'en plus, la saison dernière a été arrêtée rapidement. Donc, finalement, on construisait en tant qu'équipe. Et puis, au match retour, sur la phase retour, on a joué une fois chaque adversaire. Donc, on a plus de clés par rapport à elles pour les embêter.
Oui, exactement. C'est tout à fait l'idée, c'est de pouvoir être toujours prioritairement concentré sur nous à 100% dans un premier temps. Mais il faut pas non plus arriver au match sans savoir à qui on a affaire. Plus on connaît l'adversaire, plus on peut s'adapter aussi nous la semaine à l'entraînement. Mais le travail vidéo pour ça est vraiment un outil essentiel pour augmenter la connaissance des joueuses sur nous-mêmes et sur les autres. Et c'est vrai que la répartition, si on est à, on va dire 90% pour nous, 10% pour les adversaires en première phase, on augmente un peu à aller à 70-30 en deuxième phase. Donc c'est toujours moi je mets beaucoup d'importance à nous, ce qu'on fait en tant que jeune équipe et en tant que quel vécu on a aussi derrière ça. Et peut-être que j'aurais pas le même discours dans deux saisons si je suis toujours au LCB en disant voilà, on connaît la poule, on connaît les adversaires, nous on se connaît très bien depuis 3 ans, le collectif c'est huilé, donc on peut développer d'autres choses, mais pour le moment il faut pas griller les étapes.
Bah, écoute, nous on n'est pas dirigeant du LCB en tout cas, mais on espère que tu seras toujours au LCB dans 3 ans.
C'est gentil.
T'as un discours qui est vraiment très intéressant à écouter, et puis c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis dernier chapitre concernant la vidéo me concernant. Combien de fois tu regardes un match en moyenne, si c'est quantifiable?
En fait, là, moi je le revois le lundi. Donc, en fait, le match on joue dimanche, je le revois le lundi. Donc les filles ont des stats du match et un cumul de stats depuis le début de l'année les concernant le lundi. Et après, je revisionne une fois un autre match le mercredi ou jeudi matin avant la séance collective du jeudi soir. Pour vraiment me remettre en tête les idées de ce qui les points clés en fait à travailler sur l'entraînement du collectif du jeudi, où on est beaucoup plus sur du 5-5 que les deux autres séances. Et quand j'ai des matchs d'adversaires, bah je le fais aussi le mercredi et le jeudi. Donc je regarde pas une deuxième fois nous, mais je regarde une première fois en fait le match que j'ai de l'adversaire.
Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'imagine, enfin c'est souvent ça dans le sport. Par exemple, les calendriers sont assez logiques, dans le sens où à l'équipe que vous allez jouer, elle a joué contre une équipe auparavant, et c'est souvent la même peut-être. Enfin, c'est comme ça dans le foot en tout cas. Et donc il y a aussi peut-être des échanges que vous avez avec les coachs adverses. J'imagine que avec notamment Christophe Poncharo sont plutôt cordiaux, donc il y a peut-être des échanges entre vous concernant un peu le regard que vous avez sur les autres équipes de la poule.
Oui, exactement. On travaille. Enfin, moi, je travaille avec deux entraîneurs principalement au sein de cette poule là, qui sont les entraîneurs bien sûr locaux, hein. il y a pas de choses à cacher, mais après voilà, on sait toujours on écoute toujours ce qu'ils ont à dire, mais ils nous disent aussi ce qu'ils veulent, et dans le cadre de Choré, c'est un peu particulier parce que c'est une équipe qui domine largement le championnat, donc avec Christophe on a des rapports aussi particuliers parce que c'était mon tuteur lors de mon diplôme professionnel de basket, donc il m'a suivi aussi pendant longtemps, donc on a des rapports très très amicaux. Et avec Jordan Baudry là, qui est entraîneur de Bressuire, voilà, lui c'est on travaille ensemble, mais lui comme moi on sait qu'on est concurrents directs pour sauver notre peau à ce niveau là donc c'est à dire que voilà, on il faut toujours régler et on va dire faire attention à la communication. Donc il faut communiquer pour entre guillemets pas se faire embêter, mais il faut maîtriser cette communication. Et c'est très important d'être assez lucide dans ce point-là, parce qu'il faut pas quand même tendre le bâton pour se faire battre, quoi.
Pour prendre un peu de hauteur, Alex, quel est dans ton discours auprès de ton équipe, est-ce que c'est l'argument numéro un qui est mis en avant, c'est la notion de plaisir?
Oui, en fait, c'est le life motif de l'équipe. C'est-à-dire que si on s'amuse pas, de toute façon, on n'arrivera à rien. Donc, il faut sortir des matchs avec le sourire et avec la capacité à se regarder soit dans un miroir, soit les unes avec les autres, et se dire ok, on a tous donné 100%. Et après le résultat c'est autre chose. Mais déjà, si on met pas les ingrédients qu'on a travaillé collectivement ou l'investissement personnel, ce qui est sûr c'est qu'on n'atteindra pas l'objectif collectif. Donc c'est hyper hyper important de le faire dans la bonne humeur, dans le plaisir et dans l'envie aussi de se dépasser et de se faire mal. Et ça c'est très important dès la semaine d'entraînement. Moi, je mets beaucoup de cœur à ce que dès le lundi, quand on se revoit, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu la veille, ou qu'on ait fait un super long déplacement ou pas, à ce que les filles viennent avec l'envie de s'entraîner. Et donc après, c'est à moi aussi de les challenger sur ces séances pour que elles trouvent du plaisir. Donc des fois on met de la musique, des fois on fait que des choses ludiques. Voilà, on varie un peu les situations pour qu'elles aient toujours de l'intérêt à venir pratiquer avec envie, notamment dans les périodes hivernales où tout le monde est un peu plus difficile à bouger de chez soi après une journée de travail.
Pour conclure cette émission, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif du club à 2-3 ans?
Alors l'objectif, ça va être à moyen terme, donc c'est forcément de pérenniser l'équipe première en National 3, d'améliorer les fondations des équipes U18 et R2. Donc on sait que au LCB il y a Emery Carnot qui s'occupe de la formation des jeunes joueuses jusqu'à U15, Et derrière, en fait, il y avait pas de lien avec l'équipe première. Donc là, c'est ça, c'est moi mes missions. Et donc il faut laisser un peu de temps pour développer ces deux catégories U18 et R2, et qui permettront de performer en équipe première. Mais pour ça, il faut qu'on valide un maintien sportif qui fera un grand soulagement pour tout le monde. Et derrière, continuer à travailler dans la victoire et continuer à développer ce projet qui est ambitieux, et en espérant dans 2-3 ans avoir des joueuses qui sont actuellement U18 au sein de l'équipe première. On essaye d'en mettre une chaque année en plus. Donc si c'est dans 2 ans, on va avoir deux qui intègrent cette équipe première avec un vrai rôle à jouer, et de pouvoir être plutôt chercher un top 5 de N3 plutôt qu'un maintien à la 7e, 8e place.
Alex, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc on arrive au terme de cette émission. On te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi et au club?
Eh ben, on peut nous souhaiter de continuer à travailler avec envie et passion, que ce soit du bénévole aux joueuses de l'équipe première, aux enfants qui sont à l'école de basket, parce que chaque licencié est hyper important, et la vie du club c'est ça aussi, c'est pas que l'équipe 1. Donc d'être en forme et de pouvoir retrouver le chemin du terrain dès janvier, mais là on a besoin tous d'une petite pause. Ouais. Et j'espère qu'on pourra rééchanger ensemble en fin d'année ou l'année prochaine, en pouvant essayer de mettre en place des projets ambitieux pour l'année prochaine, et en évoluant toujours au même niveau.
Parfait, on se donne rendez-vous pour cette fin de saison. On aura le plaisir de te réaccueillir au moment où la saison se terminera. Voilà. Merci encore une fois, Alex. Donc, à très bientôt. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Bon vent, bonne santé surtout, et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir, Alex.
Attitude.
Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.
De joyeuses fêtes.